À voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour et bienvenue dans cette émission à voix lue. Je vous propose une lecture poignante par Isabelle Carré et Sophie Neveu, une lecture qui se tenait au mémorial de la Shoah le 7 février 2008 et qui reprend des extraits du journal d'Hélène Baird édité par Talendier. Hélène Baird a 21 ans lorsqu'elle commence à écrire son journal. L'année 1942 et les lois anti-juives de Vichy vont faire lentement basculer sa vie. Quelques extraits donc dans quelques instants.
Ceci est mon journal. Le reste se trouve à Aubergenville. 1942.
Mardi 7 avril, 4 heures. Je reviens de chez la concierge de Paul Valéry. Je me suis enfin décidée à aller chercher mon livre. Après le déjeuner, le soleil brillait. Il n'y avait pas de menace de giboulée. J'ai pris le 92 jusqu'à l'étoile. En descendant l'avenue Victor Hugo, mes appréhensions ont commencé. Au coin de la rue Villejuste, j'ai eu un moment de panique. Et tout de suite, la réaction, il faut que je prenne les responsabilités de mes actes. There's no one to blame but you. Et toute ma confiance est revenue. Je me suis demandé comment j'avais pu avoir peur. La semaine dernière, même jusqu'à ce moment, je trouvais cela tout naturel. C'est maman qui m'a rendue intimidée, en me montrant qu'elle était très étonnée de mon audace. Autrement, je trouvais cela tout simple. Toujours mon état de demi-rêve. J'ai sonné au 40. Un fox terrier s'est précipité sur moi en aboyant. La concierge l'a appelé. Elle m'a demandé d'un air méfiant « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai répondu de mon ton le plus naturel « Est-ce que Monsieur Valéry n'a pas laissé un petit paquet pour moi ?» Tout de même, de loin, je m'étonnais de mon aplomb. Mais de très loin. La concierge est rentrée dans sa loge. À quel nom ? Mademoiselle Baird. Elle s'est dirigée vers la table. Je savais d'avance qu'il était là. Elle a fouillé et m'a tendu mon paquet dans le même papier blanc. J'ai dit « Merci beaucoup ». Très aimablement, elle a répondu « À votre service ». Et je suis repartie ayant juste eu le temps de voir que mon nom était inscrit d'une écriture très nette à l'encre noire sur le paquet. Une fois de l'autre côté de la porte, je l'ai défait. Sur la page de garde, il y avait écrit de la même écriture « Exemplaire de Mademoiselle Hélène Baird ». Et au-dessous, au réveil, si douce la lumière et si beau ce bleu vivant, Paul Valéry. Et la joie m'a inondée. Une joie qui venait confirmer ma confiance qui s'harmonisait avec le joyeux soleil et le ciel bleu tout lavé au-dessus des nuages ouatés. Je suis rentrée à pied avec un petit sentiment de triomphe à la pensée de ce que les parents diraient et l'impression qu'au fond, l'extraordinaire était le réel.
Samedi 11 avril. Beauté irréelle de cette journée d'été à Aubergenville. Cette journée s'est déroulée dans sa perfection. Depuis le lever du soleil, plein de fraîcheur et de promesses, lumineux, jusqu'à cette soirée si douce et si calme, si tendre qui m'a baignée tout à l'heure lorsque j'ai fermé les volets. Ce matin, en arrivant, après avoir épluché les pommes de terre, je me suis sauvée au jardin, sûre de la joie qui m'attendait. J'ai retrouvé les sensations de l'été dernier, fraîches et neuves, qui m'attendaient comme des amis, le foudroiement de lumière qui émane du potager, l'allégresse qui accompagne la montée triomphante dans le soleil matinal, la joie à chaque instant renouvelée d'une découverte, le parfum subtil des buis en fleurs, le bourdonnement des abeilles, l'apparition soudaine d'un papillon au vol hésitant et un peu ivre, tout cela, je le reconnaissais, avec une joie singulière.
Jeudi 16 avril. Ce matin, je suis allée à la Sorbonne pour me changer un peu. Je me suis assise à ma place habituelle, à côté d'une fille grognon. De l'âtre parlait de chacun. Je n'écoutais pas. Je regardais mon ombre dans le soleil. À l'admi, j'ai vu Sparkenbrock me faire des signes qui voulaient dire « Vous restez ?» J'ai répondu non. Et nous sommes sortis dans le soleil. L'étrange promenade dans les rues connues, que je ne reconnaissais plus. Comme si brusquement elles étaient étrangères. La rue de l'école de médecine, la rue Antoine-Dubois, la rue de Médicis. Au Luxembourg, nous nous sommes arrêtés au bord du bassin où voguaient des dizaines de petits bateaux à voile. Je sais que nous avons parlé, mais je n'ai plus qu'un souvenir de la fascination qu'exerçait sur moi l'étincellement de l'eau sous le soleil. Le clapotis léger et les rides qui étaient pleines de joie. La courbe gracieuse des petits voiliers sous le vent. Et par-dessus tout, le grand ciel bleu frissonnant. Autour de moi, il y avait une foule d'enfants et de grandes personnes. Mais c'était l'eau étincelante, dansante, qui m'attirait. Même quand je parlais, c'était elle qui occupait mon esprit, je le sens maintenant. J'avais pourtant envie de me disputer, car Sparkenbrock me disait « Les Allemands vont gagner la guerre ». J'ai dit « Non ». Mais je ne savais pas quoi dire d'autre. Je sentais ma lâcheté, la lâcheté de ne plus soutenir devant lui mes croyances. Alors je me suis secouée, je me suis exclamée « Mais qu'est-ce que nous viendrons si les Allemands gagnent ?» Il a fait un signe évasif, « Bah, rien ne changera ». Je savais d'avance qu'il répondrait cela. Il y aura toujours le soleil et l'eau. J'étais d'autant plus irritée qu'au fond de moi-même, à cet instant, je sentais aussi le suprême néant de toutes ces disputes en face de la beauté. Et pourtant, je savais que je cédais à un enchantement mauvais. Je me reniais. Je savais que je m'en voudrais de cette lâcheté. Je me suis forcée à dire « Mais il ne laisse pas tout le monde jouir de la lumière et de l'eau. » Heureusement, cette phrase me sauvait. Je ne voulais pas être lâche. Car je sais maintenant que c'est de la lâcheté. On n'a pas le droit de ne penser qu'à la poésie sur Terre. C'est une magie, mais elle est suprêmement égoïste. En redescendant le boulevard Saint-Michel, il parlait de ses amis, tous mariés et pères de famille. J'ai dit « Oui, tous les garçons se marient jeunes. » Et la conversation a continué sur ce terrain. J'ai dit à un moment « Au fond, ce n'est pas difficile de se marier. Ce qui est difficile, c'est de trouver le vrai bonheur. » Là, j'ai cherché mes mots en hésitant. Il a répondu « Je n'ai jamais cru à cela. » J'ai répondu avec force « Moi, j'y crois encore et je ne veux pas que vous m'ôtiez mes illusions. » J'ai eu brusquement une impression d'isolement. Au fond, il était très différent de moi lui aussi. Pourtant, je suis jeune encore. C'est une injustice que toute la limpidité de ma vie soit troublée. Je ne veux pas devenir blasée, désabusée, vieille. Qu'est-ce qui me sauvera ?
Lundi 27 avril, à la bibliothèque, j'ai revu ce garçon aux yeux gris. À ma grande surprise, il m'a proposé de venir écouter des disques jeudi. Pendant un quart d'heure, nous avons discuté musique. Je sais son nom. Il s'appelle Jean Morawiecki. Avant de le savoir, je lui avais trouvé l'air slave, l'air d'un prince slave. Jeudi 30 avril. J'ai passé un après-midi merveilleux. Cela me gênait beaucoup d'aller entendre ces disques avec ce garçon totalement inconnu. Mais dès que je l'ai vu arriver dans la cour de l'Institut d'anglais, où j'avais fixé le rendez-vous, ma gêne a disparu. Tout était très simple. Il nous a emmenés, moi et un de ses camarades que je connais de vue, très laid mais sympathique, à la maison des lettres rue Soufflot, jusqu'à 6h30, nous avons écouté des disques. Jeudi 4 juin, chez Madame Jourdan, nous avons discuté la question de l'insigne. À ce moment-là, j'étais décidée à ne pas le porter. Je considérais cela comme une infamie et une preuve d'obéissance aux lois allemandes. Ce soir, tout a changé à nouveau. Je trouve que c'est une lâcheté de ne pas le faire, vis-à-vis de ceux qui le feront. Seulement si je le porte, je veux toujours être très élégante et très digne pour que les gens voient ce que c'est. Je veux faire la chose la plus courageuse. Ce soir, je crois que c'est de le porter. Seulement, où cela peut-il nous mener ?
Lundi 8 juin. C'est le premier jour où je me sens réellement en vacances. Il fait un temps radieux, très frais après l'orage d'hier. Les oiseaux pépient, un matin comme celui de Paul Valéry. Le premier jour aussi où je vais porter l'étoile jaune. Ce sont les deux aspects de la vie actuelle, la fraîcheur, la beauté, la jeunesse de la vie, incarnée par cette matinée limpide, la barbarie et le mal représentés par cette étoile jaune. Mon Dieu, je ne croyais pas que ce serait si dur. J'ai eu beaucoup de courage toute la journée. J'ai porté la tête haute et j'ai si bien regardé les gens en face qu'ils détournaient les yeux. Mais c'est dur. D'ailleurs, la majorité des gens ne regardent pas. Le plus pénible, c'est de rencontrer des gens qui l'ont. Ce matin, je suis partie avec maman. Deux gosses dans la rue nous ont montré du doigt en disant « Hein, t'as vu ? Juif !» Mais le reste s'est passé normalement. À l'étoile, je suis allée à l'artisanat chercher ma blouse. Puis j'ai repris le 92. Un jeune homme et une jeune fille attendaient. J'ai vu la jeune fille me montrer à son compagnon. Puis ils ont parlé. Instinctivement, j'ai relevé la tête, en plein soleil. J'ai entendu. C'est écœurant. Dans l'autobus, il y avait une femme, une domestique probablement, qui m'avait déjà souri avant de monter et qui s'est retournée plusieurs fois pour sourire. Un monsieur chic me fixait. Je ne pouvais pas deviner le sens de ce regard, mais je l'ai regardé fièrement. Je suis repartie pour la Sorbonne. Dans le métro, encore une femme du peuple m'a souri. Cela a fait jaillir mes larmes à mes yeux, je ne sais pourquoi. J'ai rien eu à faire à la bibliothèque. À 4h, Jean Morawiecki est entré. C'était un soulagement de lui parler. Il s'assit devant le pupitre et est resté là jusqu'au bout, à bavarder. Et même sans rien dire. Quand tout le monde a eu quitté la bibliothèque, j'ai sorti ma veste et je lui ai montré l'étoile. Mais je ne pouvais pas le regarder en face. Je l'ai ôté et j'ai mis le bouquet tricolore qu'il a fixé à ma boutonnière. Lorsque j'ai levé les yeux, j'ai vu qu'il avait été frappé en plein cœur. Je suis sûre qu'il ne se doutait de rien. Je craignais que toute notre amitié ne fût soudain brisée, amoindrie par cela. Mais après, nous avons marché jusqu'à Sèvres Babylone. Il a été très gentil. Je me demande ce qu'il pensait.
Mardi 9 juin. Aujourd'hui, cela a été encore pire qu'hier. Je suis éreintée, comme si j'avais fait une promenade de 5 kilomètres. J'ai la figure tendue par l'effort que j'ai fait tout le temps pour retenir des larmes qui jaillissaient, je ne sais pourquoi. Ce matin, j'étais restée à la maison à travailler du violon. Dans Mozart, j'avais tout oublié. Mais cet après-midi, tout a recommencé. Je devais aller chercher Vivi Lafont à la sortie de la grecque d'anglais à 2h. Je ne voulais pas porter l'étoile. Mais j'ai fini par le faire, trouvant lâche ma résistance. Il y a eu d'abord deux petites filles avenue de la Bourdonnais qui m'ont montré du doigt. Puis au métro, à l'école militaire. Quand je suis descendue, une dame m'a dit « Bonjour mademoiselle », le contrôleur m'a dit « Dernière voiture ». Alors c'était vrai, le bruit qui avait couru hier. Cela a été comme la brusque réalisation d'un mauvais rêve. Le métro arrivait, je suis montée dans la première voiture. Au changement, j'ai pris la dernière. Il n'y avait pas d'insigne. Mais rétrospectivement, des larmes de douleur et de révolte ont jailli à mes yeux. J'étais obligée de fixer quelque chose pour qu'elle rentre. Je suis arrivée dans la grande cour de la Sorbonne à 2 heures tapantes. J'ai cru apercevoir Molinier au milieu, mais n'étant pas sûre, je me suis dirigée vers le hall au bas de la bibliothèque. C'était lui, car il est venu me rejoindre. Il m'a parlé très gentiment, mais son regard se détournait de mon étoile. Quand il me regardait, c'était au-dessus de ce niveau, et nos yeux semblaient dire « n'y faites pas attention ». Il venait de passer sa seconde épreuve de philo. Puis il m'a quittée, et je suis allée au bas de l'escalier. Les étudiants flânaient, attendaient, quelques-uns me regardaient. Bientôt, Vivi Lafont est descendue. Une de ses amies est arrivée et nous sommes sortis au soleil. Nous parlions de l'examen, mais je sentais que toutes les pensées roulaient sur cet insigne. Lorsqu'elle a pu me parler seule, elle m'a demandé si je ne craignais pas qu'on m'arrache mon bouquet tricolore et ensuite elle m'a dit « Je ne peux pas voir les gens avec ça ». Je sais bien, cela blesse les autres. Mais s'ils savaient, eux, quelle crucifixion c'est pour moi. J'ai souffert, là, dans cette cour ensoleillée de la Sorbonne, au milieu de tous mes camarades. Il me semblait brusquement que je n'étais plus moi-même, que tout était changé, que j'étais devenue étrangère, comme si j'étais en plein dans un cauchemar. Je voyais autour de moi des figures connues, mais je sentais leur peine et leur stupeur à tous. C'était comme si j'avais eu une marque au fer rouge sur le front. Sur les marches, il y avait Mondoloni et le mari de Madame Bouya. Ils ont eu l'air stupéfaits quand ils m'ont vue. Et puis il y avait Jacqueline Niaisan, qui m'a parlé comme si de rien n'était, et Bosque, qui avait l'air gêné, mais à qui j'ai tendu la main pour le mettre à son aise. J'étais naturelle, superficiellement, mais je vivais un cauchemar. Lorsqu'enfin j'ai vu sortir Jean Morawiecki, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi. Un soulagement brusque en voyant son visage, parce que lui, il savait et il me connaissait. Je l'ai appelé, il s'est retourné et a souri. Il était très pâle. Puis il m'a dit « Excusez-moi, je ne sais plus très bien où je suis ». J'ai réalisé qu'il était complètement perdu et éreinté, mais il souriait quand même et n'avait même pas l'air, lui, d'être changé. Mercredi 24 juin. C'était hier, à peu près à cette heure-ci. Comme je devais rentrer avec papa, j'ai pensé qu'il était trop tôt et je me suis attardée rue de Téhéran. En arrivant rue de la Baume, j'ai trouvé toute la famille Carpentier debout, devant la loge. Je leur ai dit bonjour et ils m'ont à peine répondu. Ils avaient l'air préoccupés, je n'ai pas insisté. En haut de l'escalier, j'ai vu Carpentier qui fait l'huissier à cette heure-là. J'ai redemandé si papa était là. Il a répondu « Non, mais si mademoiselle veut voir monsieur le président ?» Alors ma curiosité s'est changée en appréhension. Tout ce mystère m'énervait. Mais lorsque Carpentier m'a ouvert la porte de monsieur Duchemin, j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a commencé. « Voilà, Hélène, j'ai vu votre père ce matin, il m'a laissé ce petit mot. Je n'avais pas compris un mot de ce qu'il disait, mais j'avais réalisé qu'on était venu arrêter papa. Je compris tout de même qu'il me ramenait à la maison en voiture, qu'il voulait prévenir maman. Le papier aussi, je le retins. C'était une feuille de papier Kuhlmann. Je me rappelle qu'il y avait même la date, 9h30, 23 juin, et de l'écriture nette de papa. Un inspecteur de police m'emmène rue de Greffel et de là au service allemand. Puis une ligne séparée, je ne sais pourquoi. En dessous, il se peut que ce ne soit pas pour arrestation ou internement. J'étais dans une sorte de brume, je ne parlais pas. Il faisait un temps splendide. Il fait toujours beau dans les catastrophes. Lorsqu'il fallut monter les 4 étages, je me demandais comment j'allais prévenir maman. Les 3 premiers, je les montais un à un. Mais le dernier, je l'ai grimpé deux à deux, pour arriver d'abord. Vers midi et demi, le téléphone a sonné. C'était une voix d'homme inconnu. Nous avons tout de suite compris. L'inspecteur de police qui avait arrêté papa. L'inspecteur a affirmé que papa aurait été relâché si son étoile avait été bien cousue, car l'interrogatoire avenue Foch s'était bien passé. J'ai protesté. Maman aussi. Elle a expliqué qu'elle l'avait installée à l'aide d'agrafes et de pression pour pouvoir la mettre sur tous les costumes. L'autre a continué d'affirmer que c'était cela qui avait causé l'internement. Au camp de Drancy, elles sont cousues. Alors cela nous a rappelé qu'il allait à Drancy.
Lundi 5 juillet, ce matin est arrivée la deuxième carte de papa. Il décrit sa vie, une de ses journées. Elles sont lamentablement vides. Le matin, réveil, il met un point d'interrogation parce qu'il n'a pas beaucoup dormi, à 7 heures. Appel à 8 heures. L'autre jour, un monsieur Muller, qui était malade, était resté couché pour une fois, dénoncé. Et Daneker, lors de sa visite, monte droit chez lui, le trouve couché, avec un pyjama trop beau. Il le fait déporter. 58 ans. De 8 à 10 heures, promenade, oscillation. Il y a des petits mots humoristiques que papa emploie, mais qui, dans ces circonstances, sont déchirants. À 11h30, soupe, et à 17h30, puis il s'occupe du menu du déjeuner. L'après-midi, est-ce qu'il y a de plus long ? La soirée se passe à causer. Il faut s'habituer à dormir avec les ronflements et sans volets. Il était jusqu'ici aveuglé par le clair de lune. Il y a dans sa carte une chose qui m'a fait une peine immense, un petit détail. Il écrit « On peut m'envoyer des groseilles. J'en ai vu dans les paquets arriver ici. Pourquoi cela me donne-t-il envie de m'enfuir à toutes jambes ?» Il y a quelque chose d'enfantin dans cette phrase.
Vendredi 10 juillet. À la bibliothèque, je n'ai rien eu à faire. J'ai presque fini La paix des profondeurs. C'est remarquable. Nouvelle ordonnance aujourd'hui. Les Juifs n'auront plus le droit non plus de traverser les Champs-Élysées. Théâtre et restaurant réservés. La nouvelle est rédigée d'un ton naturel et hypocrite, comme si c'était un fait accompli qu'en France, on persécutait les Juifs. Un fait acquis, reconnu comme une nécessité et un droit. Lorsque j'y ai pensé, je bouillonnais tellement que je suis venue dans cette chambre me calmer. Mercredi 15 juillet, 23h. Quelque chose se prépare. Quelque chose qui sera une tragédie. La tragédie, peut-être. Monsieur Simon est arrivé ce soir à 10h, nous prévenir qu'on lui avait parlé d'une rafle pour après-demain. 20 000 personnes. J'ai appris à associer sa personne avec des catastrophes. Il y a une vague de terreur qui saisit tous les autres gens depuis quelques jours. Il semble que ce soit les SS qui aient pris le commandement en France et que la terreur doive s'en suivre.
Samedi 18 juillet. Je reprends ce journal aujourd'hui. Je croyais jeudi que la vie serait arrêtée, mais elle a continué. Hier soir, après ma journée de bibliothèque, elle était redevenue si normale que je ne pouvais plus croire à ce qui s'était passé la veille. Depuis hier, elle a changé à nouveau. J'étais allée chez Madame Bieder, cette malheureuse mère de 8 enfants dont le mari est déporté. Elle habite le faubourg Saint-Denis. Nous sommes restés, Denise et moi, un quart d'heure chez elle. En sortant, j'étais presque contente de m'être enfoncée dans la vraie souffrance. Je sentais bien que j'étais coupable, qu'il y avait quelque chose que je ne voyais pas. C'était cette réalité. À Montmartre, il y a eu tellement d'arrestations que les rues étaient bloquées. On a séparé les mères des enfants. Je note les faits, hâtivement, pour ne pas les oublier, parce qu'il ne faut pas oublier. Dans le quartier de Mademoiselle Mont-Saint-Jean, une famille entière, père, mère et 5 enfants, se sont suicidés au gaz pour échapper à la rafle. Une femme s'est jetée par la fenêtre. Plusieurs agents ont été, paraît-il, fusillés pour avoir prévenu les gens de s'enfuir. On les a menacés de camps de concentration s'ils n'obéissaient pas. Qui va nourrir les internés de Drancy maintenant que leurs femmes sont arrêtées ? Les petits ne retrouveront jamais leurs parents ? Quelles sont les conséquences lointaines de cette chose arrivée avant-hier soir, au petit jour. 8 heures du soir. Françoise, qui est venue ce soir, nous a dit qu'au Veldiv, où on a enfermé des milliers de femmes et d'enfants, il y a des femmes qui accouchent, des enfants qui hurlent. Et tout cela couché par terre, gardé par des Allemands. Dimanche soir, 19 juillet. Autre détail. Une femme devenue folle a jeté ses 4 enfants par la fenêtre. Monsieur Boucher a donné des nouvelles du Veldiv. 12 000 personnes y sont enfermées. C'est l'enfer. Nouvelles de papa hier soir. Depuis 2 jours, enfermés dans leur 1m50. Vu des scènes atroces. Eugène B., couché misérablement avec rhumatisme général. J'ai eu tort de m'exalter en parlant des horreurs d'ici et de mon horreur de la zone libre, parce que Jean a dit presque tout bas. C'est pour cela que c'est dur pour un garçon comme moi, de 21 ans, de ne rien faire. Cela me révolte. Je connais son idée. J'ai peur qu'il ne meure jeune d'une mort glorieuse. Son essence, c'est le chevaleresque. C'est magnifique, et en même temps, cela me remplit de tristesse.
Dimanche 26 juillet, soir, la vie est extraordinaire. Ceci n'est pas un aphorisme. Ce soir, je me sens exaltée. J'ai l'impression de vivre dans une atmosphère de roman. Je ne peux pas expliquer. C'est un peu comme si j'avais des ailes. Hier, nous étions allés chez Jean Morawiecki, Denise et moi, à Saint-Cloud. Nous avions passé un après-midi merveilleux dans la bibliothèque, les fenêtres ouvertes sur le jardin, bourdonnant de soleil, et pourtant infiniment calme, à écouter des disques. Quand je l'ai revu cet après-midi, il m'a demandé si j'avais bien dormi. J'ai répondu non, très mal, et vous ? Je savais d'avance que lui aussi. Il me semblait que nous ne nous étions pas quittés, et qu'il le savait aussi. Le ciel noir aujourd'hui au-dessus de la coupole de l'Institut, les rues mouillées et luisantes, et tout le temps, mon bonheur sûr, constant, magnifique. Je ne pense même pas à lui en tant que personne distincte. Il est devenu une idée vague, la cause de mon bonheur.
Dimanche 16 août, notre première sortie avec les enfants. Le petit Bernard m'a raconté son histoire, en bégayant avec sa voix enfantine. Sa mère et sa sœur ont été déportées et il m'a sorti cette phrase qui semblait si vieille dans sa bouche de bébé. Je suis sûre qu'elles ne reviendront pas vivantes. Il a l'air d'un ange.
Dimanche 6 septembre, auberge en ville, cueillette de murs. Il y a un homme qui s'est suicidé dans la chambre voisine de papa.
Lundi 14 septembre, c'est lorsque je ne prévois pas les choses qu'elles sont les plus belles. Toute ma vie, je me souviendrai de cet après-midi si rempli. Je suis allée avec lui à Saint-Séverin, puis nous avons erré sur les quais. Nous nous sommes assis dans le petit jardin qui est derrière Notre-Dame. Il y avait une paix infinie, mais nous avons été chassés par le gardien à cause de mon étoile. Comme j'étais avec lui, je n'ai pas réalisé cette blessure. Et nous avons continué à marcher sur les quais. À la fin, l'orage qui menaçait a éclaté. C'est de cet orage que je me souviendrai. Du bruit des cataractes de pluie qui déferlaient des marches des Tuileries. Du ciel sombre, des éclairs roses. Je serais restée des siècles ainsi. Lorsque je suis rentrée ici, j'ai trouvé des rosetés de Jean. Dans ma pensée, il est devenu Jean lorsque j'ai reçu ses fleurs. Ma première idée a été « Comment a-t-il su ?» Puis j'ai réfléchi qu'il ne savait pas et que ses fleurs étaient une communion de pensées. Et j'ai été touchée jusqu'au fond de moi-même. Chaque fois que j'y pense, je suis envahie de douceur. C'est la seule chose douce de cette atmosphère. Nous sommes allés sur les berges de la Seine, près du pont des Arts, à côté de 2 pêcheurs. Après, je l'ai accompagné avenue de l'Opéra chez son tailleur et ensuite à la gare. Dans la foule à la gare, j'ai eu brusquement peur de le perdre. À ce moment, il m'a pris le bras. Je ne pouvais pas lui expliquer pourquoi j'étais si reconnaissante de ce simple geste. Mercredi 28 octobre, nous sommes revenus de la Sorbonne ici, dans cette chambre. Nous avons écouté les disques de Schumann, juste comme je le voulais.
Jeudi 29 octobre. Et brusquement, tout s'est déchiré. Il parle tellement de son départ que je suis arrivée à le redouter. Il m'a dit « C'est peut-être la dernière fois que nous nous voyons. » Il pleuvait à torrents et nous avons passé une heure dans un couloir de la Sorbonne. Il était de mauvaise humeur et parlait à peine.
Dimanche 8 novembre. Étrange journée, j'y comprends rien. Hier, cela a été merveilleux. Même la pensée de son départ, sûre pour jeudi, n'a pu obscurcir la journée. J'étais allée à la gare le chercher et nous sommes rentrés à pied par les Champs-Élysées. J'avais mis mon manteau de fourrure pour la première fois. Cette nuit, j'ai rêvé de Jean tout le temps. L'idée de son départ a fini par me réveiller complètement. Je suis partie rue Vauquelin par un temps radieux, un soleil doré, fragile, un ciel intensément bleu et une atmosphère de cristal. Mercredi 26 novembre. Lettre de Jean. Il n'est parti que ce matin. Il aurait pu venir me voir. Quand je suis rentrée de l'Union Générale des Israélites de France, j'ai trouvé un magnifique bouquet d'œillets de lui. Il venait de notre boutique rue Saint-Augustin. Le soleil brillait, j'étais inondée de joie, et hier me paraissait un cauchemar.
Mercredi 25 août 1943. Il y a 10 mois que j'ai cessé ce journal. Ce soir, je le sors de mon tiroir pour le faire emporter en lieu sûr, par maman. De nouveau, on m'a fait dire de ne pas rester chez moi à la fin de la semaine. 1 an presque a passé. Drancy, les déportations, les souffrances existent toujours. Beaucoup d'événements se sont passés. Denise s'est mariée. Jean est parti pour l'Espagne, sans que j'aie pu le revoir. Toutes mes amies du bureau sont arrêtées. Et il a fallu un hasard extraordinaire pour que je ne sois pas là ce jour-là. Les raisons d'espérer sont immenses, mais je suis devenue très grave et je ne peux pas oublier les souffrances. Que se sera-t-il passé lorsque je reprendrai ce journal ?
10 octobre. Je recommence ce journal ce soir après 1 an d'interruption. Pourquoi ? Aujourd'hui, j'ai été brusquement la proie d'une impression. Qu'il fallait que j'écrive la réalité. J'ai un devoir à accomplir en écrivant, car il faut que les autres sachent. À chaque heure de la journée se répète la douloureuse expérience qui consiste à s'apercevoir que les autres ne savent pas, qu'ils n'imaginent même pas les souffrances d'autres hommes. Et toujours, j'essaie de faire ce pénible effort de raconter, parce que c'est un devoir, c'est peut-être le seul que je puisse remplir. Seulement, je n'ai pas le temps d'écrire un livre, je n'ai pas le calme d'esprit nécessaire et je n'ai sans doute pas le recul qu'il faut. Tout ce que je peux faire, c'est de noter les faits ici qui aideront plus tard ma mémoire, si je veux raconter ou si je veux écrire. De plus, depuis 1 heure que j'écris, je m'aperçois que c'est un soulagement. Et je suis décidée à mettre dans ces pages tout ce qui sera dans ma tête et dans mon cœur. Maintenant, je cesse pour aller finir la soirée avec maman.
De penser à l'avenir donne le vertige. Depuis que je suis toute petite, j'ai été tourmentée par le problème de l'anéantissement du monde extérieur avec la perte du moi. Je m'exprime mal. Ce serait plus clair si je disais « Et si je mourais ? Est-ce que tout cela existerait ?» Cette question conduit vite à une affreuse sensation d'isolement. Quand j'étais petite, je la ressentais très fort. Maintenant que je suis plus habituée à vivre avec les autres, son intensité s'est perdue. Je pense à l'histoire, à l'avenir, à quand nous serons tous morts. C'est si court la vie, et si précieux. Et maintenant, autour de moi, je la vois gaspiller à tort, criminellement ou inutilement. J'ai peur de ne plus être là lorsque Jean reviendra. Il m'arrive encore d'imaginer son retour et de penser à l'avenir. Mais lorsque je suis en plein dans la réalité, lorsque je l'aperçois clairement, alors l'angoisse s'empare de moi. Mais ce n'est pas de la peur, Je crains que mon beau rêve ne puisse se compléter, se réaliser. Je ne crains pas pour moi, mais pour cette belle chose qui aurait pu être. Maintenant, je suis dans le désert. Personne ne saura jamais ce que cet été et cet automne auront été pour moi. Je n'ai pas encore souffert dans mon corps, et Dieu seul sait si cette épreuve m'attend, mais dans mon âme, dans mes affections, vécue, et je vis dans une peine perpétuelle. La vérité est que je souffre depuis un an de l'absence de Jean, avec une constance et une intensité qui ne me laisse pas douter qu'au fond, le changement que Jean a apporté en moi soit réel. Je sais pourquoi j'écris ce journal. Je sais que je veux qu'on le donne à Jean, si je ne suis pas là lorsqu'il reviendra. Je ne veux pas disparaître sans qu'il sache tout ce que j'ai pensé pendant son absence. Si ces lignes sont lues, on verra bien que je m'attendais à mon sort. Pas que je l'aurais accepté d'avance, car je ne sais pas à quel point peut aller ma résistance physique et morale sous le poids de la réalité. Mais que je m'y attendais. Je donnerai ces pages à André. Et lorsque je les lui remettrai, je serai obligée d'envisager comme réel et pouvant venir le fait que Jean les lira. Et je ne peux pas m'empêcher alors de sentir que je m'adresse à lui et de cesser d'écrire à la troisième personne, d'écrire comme lorsque je vous écrivais des lettres, Jean. Et alors le vouvoiement et les autres formes analogues me semblent un mensonge. Immédiatement, j'ai l'impression de jouer la comédie. Quoique s'il était là, cela me semblerait tout naturel de le vouvoyer. Mais maintenant, au fond de mon cœur, je pense, ou plutôt je sens, avant même d'avoir formulé des mots, je sens mon Jean, et je lui dis « tu », et ce serait me mentir à moi-même que de faire autrement. Si j'écrivais « Jean chéri », j'aurais l'impression de jouer à l'héroïne de roman. Je penserais au Jim chéri de Miss Triplow dans Marina di Vezza, et je me moquerais de moi. Pouvoir rire, Jean aime tant cela, rire. Avant, je riais. Maintenant, le sens de l'humour me semble un sacrilège.
Il y a deux parties dans ce journal. Je m'en aperçois en relisant le début. Il y a la partie que j'écris par devoir, pour conserver des souvenirs de ce qui devra être raconté. Il y a celle qui est écrite pour Jean, pour moi et pour lui. Cela m'est un bonheur de penser que si je suis prise, André aura gardé ses pages. Quelque chose de moi, ce qui m'est le plus précieux. Car maintenant, je ne tiens plus à rien d'autre qui soit matériel. Ce qu'il faut sauvegarder, c'est son âme et sa mémoire. Penser que Jean les lira peut-être. Je reviendrai, Jean, tu sais. Je reviendrai.
J'ai pensé dans le métro aujourd'hui. Beaucoup de gens se rendront-ils compte de ce que cela aura été que d'avoir 20 ans dans cette effroyable tourmente? Se rendront-ils compte du mérite? Du mérite qu'il y aura eu à conserver un jugement impartial et une douceur de cœur à travers ce cauchemar?
Place de la Concorde, j'ai croisé tant d'Allemands avec des femmes. Et malgré toute ma volonté d'impartialité, j'ai été soulevée par une vague, non pas de haine, mais de révolte, d'écœurement, de mépris. Ces hommes-là ont ôté la joie de vivre à l'Europe entière. Ils allaient si mal avec cette beauté lumineuse et fragile de Paris. Mais lorsque je suis entrée sous les arcades et que j'ai senti quelles attaches profondes m'unissaient aux pierres, au ciel, à l'histoire de Paris, j'ai eu un sursaut de colère en pensant que ces hommes-là, ces étrangers, qui ne comprendraient jamais Paris ni la France, prétendaient que je n'étais pas française et considéraient que Paris leur était dû, que la rue de Rivoli leur appartenait.
Lundi 1er novembre, que de vide autour de moi. Pendant un long temps après la rafle du 30 juillet, j'ai eu la sensation angoissante d'être restée la seule après un naufrage. Une phrase dansait, frappait dans ma tête. Elle était venue s'imposer à moi sans que je la cherche. Elle me hantait. C'est la phrase de Job sur laquelle se termine Moby Dick. Et moi seule en ai réchappé pour te le rapporter.
Personne ne saura jamais l'expérience dévastatrice par laquelle j'ai passé cet été. De ce départ du 27 mars 42, celui du mari de Madame Schwartz, on n'a jamais rien su. On a parlé des avant-lignes sur le front russe, où l'on aurait employé les déportés à faire sauter des mines. On a parlé aussi des gaz asphyxiants par lesquels on aurait passé les convois à la frontière polonaise. Il doit y avoir une origine vraie à ces bruits. Et penser que chaque personne nouvelle qui est arrêtée hier, aujourd'hui, à cette heure même, est sans doute destinée à subir ce sort terrible. Penser que cela continue tout le temps, avec une régularité diabolique. Penser que si je suis arrêtée ce soir, je serai dans 8 jours en Haute-Silésie, peut-être morte. Que toute ma vie s'éteindra brusquement, avec tout l'infini que je sens en moi. Mardi 9, ce matin, j'ai emmené aux enfants malades une petite de 2 ans et demi. Elle pleurait tout le temps à l'hôpital en appelant « maman ». Instinctivement, automatiquement, « maman ». Le cri qui vient aux lèvres spontanément lorsqu'on souffre ou qu'on a du chagrin. Lorsque j'ai distingué ces 2 syllabes au fond de ses sanglots, j'ai tressailli. Sa mère et son père sont déportés. Elle était en nourrice et on est venu l'arrêter. Elle a passé 1 mois au camp de Poitiers. Les gendarmes qui ont obéi à des ordres leur enjoignant d'aller arrêter un bébé de 2 ans en nourrice pour l'interner, mais c'est la preuve la plus navrante de l'état d'abrutissement, de la perte totale de conscience morale où nous sommes tombés. C'est cela qui est désespérant. C'est toujours la même histoire de l'inspecteur de police qui a répondu à Madame Cohen lorsque, dans la nuit du 10 février, il est venu arrêter 13 enfants à l'orphelinat, dont l'aînée avait 13 ans et la plus jeune 5, des enfants dont les parents étaient déportés ou disparus, mais il en fallait pour compléter le convoi de 1000 du lendemain. Que voulez-vous, madame ? Je fais mon devoir.
À l'hôpital, ils ont repris hier 44 malades. Pourquoi ces déportations ? Cela ne rime à rien. Faire travailler, cela ? Ils mourront en route. Dieu, Dieu, quelle monstruosité ! Comme tout est sombre ce soir, je ne vois pas d'issue. Avant le dîner, je me suis dit, est-ce que c'est mal de souhaiter enfin être dans un havre de tendresse et d'amour ? Être dorloté ? Être choyé, faire fondre toute cette armature que la solitude face à la tempête a créée. Pourrais-je un jour ne pas être seul, captain of my soul, et avoir droit à cette tendresse maternelle que je demanderais à Jean, si paradoxal que cela puisse paraître ? Je voudrais être bercé comme un enfant, moi qui m'occupe des autres petits-enfants. Je voudrais tant et tant de tendresse après. Car maintenant, je n'ai pas le droit, sans doute.
Vendredi 13 novembre. Après le déjeuner, Madame Agache est arrivée comme une folle parce qu'elle venait d'apprendre que la jeune Madame Bokanowski, mise à l'hôpital Rothschild avec ses 2 bébés, pendant que le mari était déporté à Drancy, avait été ramenée à Drancy. Elle a demandé à maman « Comment on déporte des enfants ?» Elle était affolée. Dire la douleur que j'ai ressentie en voyant qu'elle avait seulement compris maintenant, parce que c'était quelqu'un qu'elle connaissait, c'est impossible. Maman lui a répondu, sans doute envahie par le même flot passionné que moi, « Depuis 1 an que nous vous le disons, vous ne vouliez pas le croire. » Ne pas savoir, ne pas comprendre, même lorsqu'on sait, c'est l'immense drame de cette époque. Personne ne sait rien des gens qui souffrent. Et je pensais, peuvent-ils parler de charité chrétienne, ces gens-là, qui ignorent exactement ce qu'est la fraternité et la sympathie humaine ? Ont-ils le droit de prétendre qu'ils sont légataires du Christ, ce Christ qui était le plus grand socialiste du monde, et dont la doctrine reposait sur l'égalité et la fraternité humaine ? Ils ne savent même pas ce que c'est que la fraternité. La pitié, oui, ils la donnent, en pharisiens. Car la pitié implique presque toujours une idée de supériorité ou de condescendance. Ce n'est pas la pitié qu'ils doivent donner, c'est la compréhension. La compréhension qui leur fera sentir toute la profondeur, l'irréductibilité de la souffrance des autres, la monstrueuse injustice de ses traitements et les révoltera. Mentalement, je lui disais à Madame Agache, « Maintenant, comprenez-vous pourquoi nous sommes si angoissés, pourquoi nous avons du chagrin ? Nous souffrons de la souffrance des autres, nous souffrons pour l'humanité, alors que vous, vous donniez simplement votre pitié lorsque vous en entendiez parler. »
Samedi 13 novembre. Hier soir, j'ai lu Winnie the Pooh que Jeannine Guillaume m'avait apporté. J'ai souri jusqu'au fond de mon cœur et même ri à haute voix. C'est tellement l'atmosphère des petits-enfants anglais que j'aime tant, le ton souriant et sérieux qui rit des enfants et est en même temps en admiration devant eux, qui comprend que les enfants nous sont infiniment supérieurs. Mercredi 24 novembre. Il y a aujourd'hui un an que Jean est parti. Un an que je suis rentrée pour trouver le bouquet d'œillets panachés.
Lundi soir, 13 décembre. Je ne sais pourquoi j'ai des pressentiments. Depuis 15 jours environ, on fait courir de plusieurs côtés le bruit que nous devons tous être arrêtés avant le 1er janvier. Ce n'est pas la première fois que de pareils bruits courent. Alors pourquoi suis-je si inquiète ? Objectivement, il y a de quoi. Parce que j'ai l'impression que nous sommes la dernière fournée et que nous ne passerons pas entre les mailles du filet. Il ne reste plus beaucoup de Juifs à Paris. Et comme ce sont les Allemands qui font les arrestations maintenant, il y a peu de chances d'y échapper parce que nous ne serons pas prévenus. Pourquoi suis-je inquiète ? Je n'ai pas peur. Et depuis le début, je m'y attends. Mais je m'y attends depuis si longtemps que je finis par me demander si ce n'est pas stupide d'attendre en sachant à quoi on est exposé. Vendredi 31 décembre. Quand j'écris « juif », je ne traduis pas ma pensée, car pour moi, une pareille distinction n'existe pas. Je ne me sens pas différente des autres hommes. Jamais je n'arriverai à me considérer comme faisant partie d'un groupe humain séparé. Peut-être est-ce pour cela que je souffre tellement, parce que je ne comprends plus.
Dimanche soir, 10 janvier 1944. Irai-je jusqu'au bout ? La question devient angoissante. Samedi 22 janvier. Bruit de rafle à nouveau. Il y en a eu cette nuit. Madame Pesson a alerté maman. J'ai toujours peur que ce ne soit trop tard. S'il sonne, que ferons-nous ? Ne pas ouvrir ? Ils enfonceront la porte. Ouvrir et présenter la carte ? Une chance sur 100. Essayer de filer. S'ils sont derrière la porte de service, refaire les lits en vitesse pour qu'ils ne voient pas qu'on vient de partir. Là-haut, le froid, la réaction et la pensée du lendemain à partir duquel il va falloir vivre une vie de traqué. Je n'ai jamais quitté mon domicile encore. On ouvre, la sommation, l'habillage fébrile dans la nuit, pas de sac à dos, qu'emporter. Le sentiment de la catastrophe que cela va être, du changement total, pas le temps de réfléchir, tout ce qu'on abandonne, la voiture en bas qui attend, le camp, la rencontre avec tous les autres, qu'on ne reconnaît plus, cela sera-t-il ou non ?
Je citais il n'y a pas longtemps la phrase d'une pièce russe que j'avais trouvée dans le duel. « Nous nous reposerons, oncle Vania, nous nous reposerons. » Il s'agissait du sommeil de la tombe. Mais de plus en plus, je me dis que seuls les morts échappent à cette persécution harassante. Lorsque j'apprends la mort d'un Israélite maintenant, je pense malgré moi, il est hors d'atteinte des Allemands. N'est-ce pas horrible ? Nous ne pleurons presque plus les morts. Maintenant, c'est nouveau. Lorsque je vois un Allemand ou une Allemande, je me suis aperçue avec stupéfaction qu'une bouffée de rage montait en moi, je pourrais les frapper. Ils sont devenus pour moi ceux qui font le mal, que je côtoie chaque minute. Avant, je ne les voyais pas ainsi. Je les voyais comme des automates aveugles, abrutis et brutes. Maintenant, je les vois avec les yeux de l'homme simple, avec une réaction instinctive. Je connais la haine.
Vendredi soir, 4 février 1944. Cette fois-ci, l'orage va éclater. L'abcès gonflait depuis le début de la semaine. Je revenais de chez Nadine. À nouveau, le cours est interrompu. Le pianiste, qui faisait de la musique d'ensemble avec nous, a été arrêté lundi avec sa sœur et sans doute déjà déporté. Dénonciation. Madame Jourdan a joué avec Nadine une sonate de Beethoven. Tout à coup, pendant l'adagio, la cruauté, l'injustice insensée de cette nouvelle arrestation entre 1000, entre 10 000, m'a saisie au cœur. Un garçon si artiste, capable de procurer au monde des joies si pures par son art. Et en face, la brutalité, la matière qui ignore l'esprit. Combien d'âmes, qui valaient un prix infini, ont-elles été ainsi broyées, brisées par cette brutalité germanique ? Exactement comme un violon de valeur, capable d'éveiller les émotions les plus pures et les plus profondes, est brisé par une force brutale, sacrilège. Tous ces gens que les Boches ont arrêtés, déportés, fusillés, valaient 10 000 fois mieux qu'eux. Mardi 15 février 1944. J'ai vu ce matin, à Neuilly, Madame Kahn, qui vient de passer 8 jours à Drancy. Elle avait été arrêtée à Orly et a été relâchée la veille de la dernière déportation. Par elle, j'ai obtenu les détails que nous ne pourrons plus apprendre que de ceux qui reviendront de la déportation. Elle est allée, pour ainsi dire, jusqu'à l'extrême bord. À partir de là, c'est l'inconnu, c'est le secret des déportés. À Drancy même, la vie est supportable. Pendant 8 jours, elle n'a pas eu faim. Ce que je voulais obtenir, c'était des détails sur le départ. 1 ou 2 jours avant le départ, on s'organise dans une chambrée qui reproduira le wagon. 60 personnes, hommes et femmes mélangés, jusqu'à Metz sans doute, on ne sépare pas les familles. Pour 60 personnes, 16 paillasses, étendues sur le plancher du wagon à bestiaux, plombés. Un seau hygiénique, peut-être 3, vidé quand. Comme vivre, chacun reçoit au départ un paquet contenant 4 grosses pommes de terre à l'eau, 1 livre de bœuf cuit à l'eau, 125 grammes de margarine, quelques gâteaux secs, 1 demi-crème de gruyère, 1 pain 1/4. Ration pour 6 jours de ce voyage.
Tout le temps, à l'arrière-plan de ma pensée, il y a les pages de Résurrection, du 2e volume, où l'on décrit le voyage des déportés. Cela me réconforte presque, étrange réconfort, de savoir que quelqu'un d'autre, et Tolstoï, a connu et écrit des choses pareilles. L'année dernière, à cette époque, j'écrivais à Jean des lettres pleines d'une étrange exaltation à propos de Résurrection. Je lui en avais même transcrit une page, celle où Tolstoï cherche les raisons de tout ce mal.
7 heures. Je viens de recevoir la visite d'un ancien prisonnier. En 1941, il est arrivé à son stalag des milliers de prisonniers russes dans un dénuement effroyable, mourant de faim. Le typhus s'est établi là-dedans. Des centaines mouraient chaque jour. Chaque matin, les Allemands allaient achever à coups de revolver ceux qui ne pouvaient plus se lever. Alors les malades, pour ne pas subir ce sort, se faisaient soutenir sous les bras par leurs camarades valides pour être dans les rangs. Les Allemands donnaient des coups de crosse sur les mains de ceux qui les soutenaient. Les malades tombaient, ils les entassaient sur des charrettes, en les dépouillant de leurs bottes et de leurs vêtements, les menaient jusqu'à une fosse où ils les déchargeaient sur des fourches à fumier et les jetaient dans la fosse pêle-mêle avec les cadavres. Un peu de chaux vive là-dessus. Et c'était fini. Aurore, aurore, aurore.
Canal Académie, les éditions Talendier, vous proposez donc cette lecture d'extrait par Isabelle Carré et Sophie Neveu, une lecture d'extrait du journal d'Hélène Baird.